Bienvenue à vous qui entrez dans la deuxième partie de C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Si vous avez manqué la première partie, on a parlé littérature et bande dessinée, c'était très intéressant, je vous invite à aller l'écouter. Et pour cette deuxième partie, on continue avec du cinéma, un podcast et un spectacle. Je suis toujours avec Ryan, Christophe, Jeanne, Diane et Hugo, c'est parti.
Sculpture,
littérature,
musique.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
On continue notre heure culturelle avec Hugo, qui nous replonge dans un grand classique à découvrir sur les planches. Je te laisse nous en dire plus.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois ?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. La 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 la. Est-ce que je connais les paroles par cœur et est-ce que j'ai lip-sync quasiment tout le spectacle ? Oui, mais juste le début. Après j'ai eu la flemme.
Moi, je crois que t'es fan là, Hugo.
Ah, Léa, t'imagines même pas. J'adore Les Demoiselles de Rochefort. C'est un film coloré, pétillant et politique où deux jumelles, originaires de Rochefort, en Charente-Maritime, cherchent à partir à Paris pour gagner en notoriété. L'une est danseuse, l'autre pianiste. Et toutes deux rêvent de Paris et de trouver l'homme de leur vie. Mais elles ne sont pas les seules. Monsieur Maxence, un marin, peintre, poète, cherche vainement son idéal féminin. Mais le quotidien tranquille de Rochefort et de nos trois amis va bientôt être chamboulé par l'arrivée d'une troupe de forains qui vient organiser une grande kermesse place Colbert au cœur de la ville. Tous les personnages ont leur propre histoire, leur propre chemin à suivre. Où ce chemin les mène, je vous laisse le découvrir.
C'est pas un peu gnangnan ?
Oh, tu me déçois Léa ! Je te pensais moins rétrograde que Fabrice.
Tu me fais avoir le mauvais rôle parce que moi aussi j'adore.
Spoil pas les backstage. mais oui, ça parle d'amour. Oui, du grand amour. Oui, c'est mignon, gnangnan, tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi une ode à la liberté et à la liberté d'aimer contre l'argent, contre le capitalisme. Et qui exprime aussi un certain rejet de l'objectification du corps des femmes. Je parle bien sûr de Delphine Alancin que vous avez pu écouter précédemment, mais je parle aussi de Toujours Jamais.
Toujours la même rengaine. Toujours la bagatelle, toujours les types m'entraînent dans leur chambre d'hôtel. Pourquoi ?
C'est une histoire si douce, si belle, tellement agréable à suivre. On est transporté dans un tourbillon de couleurs, d'histoires croisées qui se superposent, jusqu'à ce que chaque histoire trouve dévouement, jusqu'à un twist final, qui est comme un bonbon qu'on prend plaisir à déguster lentement et à redécouvrir de temps en temps.
Et alors, la version cabaret du Lido, est-ce que ça rend correctement hommage au film ?
Alors, pour le fan que je suis, oui. J'ai eu les yeux qui pétillaient toute la soirée, le sourire aux lèvres. Niveau ambiance, on est gâté, le respect du matériau originel est parfaitement respecté. On retrouve la même atmosphère légère, pétillante. C'est agréable de voir un petit bout de Charente-Maritime à Paris. Entre chorégraphie, acrobatie, claquettes, le spectacle promet d'en mettre plein les yeux. Et les oreilles, pour petits. Grand. Donc si le Lido m'écoute, alors je vais sans doute revenir, mais, parce qu'il y a de super réductions en semaine pour les étudiants, mais ici on a toujours un rat, donc si vous avez des places en rab, n'hésitez pas à les envoyer à C'est dans l'art, RCP tout attaché sur Instagram, autopromo. Pour vous parler des comédiens, ils étaient tous pour moi, géniaux. Ils avaient tous le sourire, on sentait leur joie d'être ici. En fait, j'ai peu de choses à leur reprocher. Hein. Ils sont sur un plateau tournant, donc peu importe où on est placé, on voit très bien l'action sur scène. Enfin, c'est super. Par contre, je dois bien avouer que le jeune Canadien David Marino, qui joue en Monsieur Maxence, était très convaincant. En plus, c'est un peu un pain. Qui a dit ça ? Qui a dit que c'était un pain ? C'est pas moi. Léa, c'est toi ?
Oui.
Et mais je dois quand même aussi vous mentionner Arnaud Léonard en Simon Dame. Si drôle, si attachant, mais avec très peu de présence scénique, il arrive pourtant à marquer les esprits. Et il a une de ses voix, les amis. Arnaud, si tu nous écoutes, viens faire de la radio avec nous. Je veux t'entendre en podcast. Avant de conclure, je dois cependant ajouter quelque chose. C'est un film qui résonne particulièrement avec mon histoire, parce qu'il faut savoir que je viens de Charente-Maritime, donc en province, hein, comme diraient les Parisiens, et donc pas loin de Rochefort. Et quand j'apprenais à conduire, aller à Rochefort, place Colbert, fut l'une de mes premières sorties en conduite accompagnée. Donc cette place, elle est toujours pour moi aussi mythique, et j'y avais même croisé ma crush de l'époque, née à Rochefort, avec une jumelle, sous le signe des Gémeaux. Donc big up à toi, Charlotte Boucli. Alors, il n'arrivera jamais rien entre nous, mais c'est suffisant pour me transformer en Monsieur Maxence.
Et demoiselles de Rochefort au Théâtre du Lido, c'est jusqu'au 14 juin, dépêchez-vous, il ne vous reste plus qu'une semaine. Merci beaucoup, Hugo. Diane.
Alors moi, j'ai jamais vu les demoiselles de Rochefort, voilà, vous pouvez me chamer. Et je suis jamais allée au Lido non plus, donc vous pouvez me chamer aussi.
On n'est pas comme ça.
Je chame.
Je suis curieuse et en même temps, je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui va me plaire? Je sais pas, je suis un peu... je suis pas encore totalement partante pour, mais
être demi pour le coup c'est bien là.
Il fait chaud, mais on a toujours les cerveaux allumés. Non mais ouais, peut-être je me laisserai tenter, je sais pas, c'est encore en dubitation quoi.
Moi je pense que ça va te plaire. Au vu de tout ce que tu nous partages dans C'est dans l'art, j'ai un peu... Puis t'arrives toujours avec des robes colorées, donc tu vas forcément aimer
ça. Ryan.
Bon déjà, merci, j'adore tes chroniques. Enfin, c'est la fin de l'année, on fait tous les compliments, j'ai compris l'année. Hugo, les chroniques d'Hugo, toujours quelque chose, on sait jamais à quoi s'attendre.
Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est la définition d'Hugo.
Moi, j'ai pas besoin d'être convaincu parce que j'adore Demi. Donc voilà, donc tu prêches un convaincu. Enfin, c'est un univers assez particulier, toujours très coloré, très musical, même si les comédiens chantent pas toujours eux-mêmes. Voilà, enfin moi je suis complètement convaincu. Je trouve que c'est une belle histoire. Esthétiquement, c'est toujours très très beau. Et donc sur scène, au théâtre, j'ai vraiment très envie de voir à quoi ça ressemble.
Puis on y va ensemble.
Allez, date.
On peut faire un tarif de groupe pour ces noms-là.
Le Lido.
J'attends les places gratuites.
Je vais vous l'envoyer sur Instagram. Hein.
Jeanne, je crois que par contre, toi, tu es allée le voir et que tu avais un avis un peu différent.
Oui, j'ai un peu plus de réserve, mais comme Hugo, je pars d'un point qui est que c'est un de mes films préférés, donc mes attentes étaient vraiment trop hautes, je pense. Et il y a... c'est un très beau spectacle, évidemment. Le Lido, c'est un endroit magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est génial. Je sais que c'est un peu cher, mais comme disait Hugo, il y a quand même des réductions parfois. Il y a des partis pris de direction artistique qui, moi, m'ont un peu déçu esthétiquement. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas un spoil, c'est vraiment la première chose qu'on voit. Il y a un fond qui est censé représenter la ville de Rochefort et le pont transbordeur, qui est un élément important du film, et qui est fait dans une espèce de design 3D violet, un peu moche, qui pivote sur lui-même. Et moi, je trouve ça très cheap. Et quand on sait le budget qu'a le Lido pour faire ce spectacle, je trouve qu'il y a plein d'éléments qui vont pas au bout de leurs promesses. Je trouve que les costumes sont un peu cheap, qui sont pas bien taillés, qui sont... Voilà, c'est du chipotage. Et il y a aussi d'autres parties pris artistiques qui m'ont un petit peu déçue, mais qui sont comme je disais, des parties prises sur lesquelles on ne peut pas vraiment discuter. Mais par exemple, les deux comédiennes principales, donc il y a deux castes, c'est deux fois deux comédiennes, qui jouent Solange et Delphine, qui sont des chanteuses d'opéra à la base, qui viennent du monde lyrique et qui ont des voix très marquées de ça, de cette formation lyrique-là, au contraire des voix chantées du film. Et moi, directement, j'ai du mal à rentrer dedans parce que j'ai complètement l'album du film dans l'oreille. Et donc, ce parti pris-là, avec une voix très comme ça, posée, très, très maîtrisée, alors que les voix du film sont un petit peu plus, j'allais dire pop, c'est pas le bon terme, mais plus naturelles, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui m'ont un petit peu déçue, mais je vous conseille quand même de découvrir les spectacles qui sont produits au Lido parce que c'est un super espace de comédie musicale de grande qualité à Paris. Voilà.
Hugo, je te laisse réagir.
En vrai, j'avoue, pour le fond, moi j'étais. Je voyais la scène sur le côté. Donc j'étais plutôt impressionné par la scène tournante qui m'a permis de profiter à titre égal que toi qui étais très bien situé. Donc l'histoire de fond, je n'ai pas pu le voir. Et j'avoue, pour les costumes, moi, ça ne m'a pas tapé dans l'œil.
Oui, pour le coup, les décors sont de grande qualité, les décors qui sont sur scène. Mais c'est plutôt d'avoir essayé de remplir l'espace. En fait, on ne voit que ça. Quand on est dans le fond de scène, on ne voit que cet espace. immense fond comme ça de, enfin voilà, bref, c'est vraiment du détail, mais moi c'est ce qui me reste en tête aujourd'hui.
Je comprends, j'avoue, une belle image de la place Colbert, ça m'aurait pas déplu. Et non, les voix posées, moi ça m'a pas dérangé puisque je m'attendais pas à revoir le film, même si j'avoue j'avais les citations quasi les frames perfects de comment c'est chanté tellement j'ai poncé l'album, mais je m'attendais à quelque chose de différent et j'en suis très content. Enfin, je suis encore sur mon petit nuage.
Christophe, tu comptes y aller?
Ouais, moi j'ai une question parce que vous parlez de voix posée, c'est ils chantent en direct, c'est pas ils font, ça veut dire quoi voix posée?
Ça veut rien dire en fait. Ce que je veux dire c'est que je trouve que la technique lyrique fait qu'il y a quelque chose de très maîtrisé,
oui,
de très je sais pas comment dire, mais tu vois, d'entendre une voix d'opéra par rapport à ce qu'on a entendu dans le film, c'est quand même des techniques différentes et je trouve que ça colle pas forcément à l'esthétique très jazz aussi de la musique de Michel Legrand.
Ouais, parce que quand on réécoute la musique, qu'est-ce qu'elle est belle, voilà. La musicalité là des quelques extraits que vous nous avez passés, vraiment merci Hugo. Et puis moi j'avais quand même une question à te poser, passer derrière Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, qu'elles y arrivent les deux filles?
Parce que c'est quand même un
monument du cinéma.
Disons que comme c'est adapté vraiment pour la pièce et pour le théâtre, toute la chorégraphie modifiée et toute la mise en scène est vraiment faite pour rendre bien pour le théâtre. Donc franchement, sur ce point-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et attends, je me permets de réagir sur les voix posées. C'est parce que je suis d'accord avec toi, le côté très...
un peu affecté.
Elles maîtrisent parfaitement leur voix et le positionnement de leur voix sur la gamme. Ça vous le placez et presque, ça manque justement d'un peu de hauteur, de sentiment un peu... un peu de folie, quoi.
Voilà, exactement. Et sur cette passée après Françoise Orléac et Catherine Deneuve, moi, je trouve qu'elles sont dans l'imitation. C'est-à-dire que toute la diction, la façon de parler, elles sont vraiment dans l'oreille, ces voix-là. Et donc, oui, je trouve qu'il y a une sorte d'imitation. Mais comme on ne s'attend pas non plus à revoir... Enfin, on sait qu'elles sont mortes, donc on va...
Non.
Je veux dire, dans le sens où on ne s'attend pas
morte,
à
Deneuve.
Voir...
Elle n'est pas morte.
Mais comme on ne s'attend pas à les voir, donc forcément, tu sais que c'est pas elle, mais je trouve qu'elle rejoue quand même un peu ça. Voilà.
Bon, en tout cas, moi, j'ai envie d'y aller. Voilà, tout ce débat me donne plutôt envie d'y aller.
Et c'est bien pour ça qu'on en parle. Merci beaucoup.
Merci.
Allez, le Lido, t'as
de groupe. Maintenant, tu chantes.
Non, on va mettre de la musique, on va pas mettre Hugo qui chante. On vient de parler des Demoiselles de Rochefort, qui est joué en ce moment au Théâtre du Lido jusqu'au 14 juin. C'est dans Paris 8. Merci, Hugo.
Art visuel. Art médiatique. Art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Jeanne, à ton tour de nous parler cinéma, tu vas nous parler de deux films et d'une question qui te taraude. On t'écoute.
Oui, Léa, cette semaine, je suis allée voir deux films sortis en salle tout récemment et présentés en sélection officielle au Festival de Cannes, bien qu'aucun n'ait remporté de prix. Ces deux films, c'était Autofiction de Pedro Almodovar et L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen, deux films espagnols, Amarga Navidad et El Ser Querido en version originale. Deux films qui ont un autre point commun, le personnage principal est un réalisateur à succès dont le génie créateur se nourrit de relations passablement toxiques avec ses proches. Dit comme ça, quand on suit un petit peu l'actualité du cinéma, difficile de ne pas penser à Valeurs sentimentales de Joachim Trier, Grand Prix du jury à Cannes l'année dernière. Alors, il n'est pas nouveau que le cinéma s'inspire du cinéma, je dirais même que c'est un sujet très commun depuis ses débuts. Les studios, les tournages, les acteurs et actrices et cinéastes sont une arène formidable pour mettre en scène tout un tas d'histoires dans tous les formats et les genres. Il y a quelque chose de très réjouissant à découvrir sur grand écran les coulisses de cet art qu'on aime tant. Et tout est matière au divertissement, les égos surdimensionnés, des tournages catastrophiques et surtout des personnages passionnés qui vivent leur art dans leur chair. À Hollywood, de Chantons sous la pluie à La La Land ou Babylone. En France, avec 10%, Fiasco, Le Livre des Solutions, des portraits de réalisateurs existants aussi, The Fabelmans, Nouvelle Vague également en compétition à Cannes l'année dernière. Bref, les exemples se comptent par centaines, mais revenons à mes deux films. Dans Autofiction, on suit deux histoires enchâssées, comme c'est souvent le cas chez Almodovar. Celle d'Elsa, en 2004, qui est réalisatrice de pubs et qui voudrait écrire des films, et s'inspire de l'histoire tragique de son amie Natalia, endeuillée par la mort de son fils, pour imaginer un personnage qui lui ressemble beaucoup. Et celle de Raoul, en 2025, un réalisateur en peine d'inspiration, qui s'inspire des malheurs de son assistante Monica pour imaginer le personnage de son prochain film. Ce personnage, c'est Elsa. Dans L'être aimé, Esteban est un réalisateur star, connu pour sa personnalité sanguine et violente. Après plusieurs années d'absence, il revient en Espagne pour son prochain film tourné dans le désert et propose le premier rôle à sa fille Emilia, actrice peu expérimentée, afin de renouer les liens avec elle. à ne surtout pas confondre avec le scénario de Valeurs sentimentales, dans lequel Gustav Borg, réalisateur star, revient en Norvège après plusieurs années d'absence pour tourner son prochain film dans sa maison familiale et propose le premier rôle à sa fille Nora, comédienne de théâtre, afin de renouer les liens avec elle.
Alors pourquoi tu nous racontes toutes ces histoires ?
Ben justement, pour vous dire qu'elle ne raconte pas grand-chose malheureusement. Je disais tout à l'heure comme il était divertissant de voir les coulisses de la création, mais en l'occurrence, dans les exemples que je cite, j'ai plutôt été très ennuyée par ces portraits de réalisateurs en crise existentielle. Alors oui, ces films abordent des thèmes universels auxquels chacun peut s'identifier, des relations familiales dysfonctionnelles, des parents absents, des proches qui ne les comprennent pas, des thèmes universels mis en scène dans des cadres pas du tout universels. Il est peut-être là mon souci. Ces personnages traversés de grands doutes, de grands tourments, sont sans doute très malheureux, mais très malheureux dans des vastes maisons parfaitement décorées, des villas à Lanzarote, un immense hôtel aux Canaries, et ils pleurent et ils s'agacent parce que leur carrière s'essouffle, parce qu'ils ont tellement travaillé qu'ils n'ont pas vu leurs enfants grandir, parce que la célébrité était dure à gérer.
Pas vraiment les problématiques de la plupart des spectateurs.
Exactement, j'arrive pas, moi, à entrer en empathie avec eux, à m'émouvoir de leur tracas, à m'identifier à leurs problèmes, j'en deviens un peu cynique. Je ne dis pas que pour apprécier un film, il faut forcément y voir une représentation de sa propre vie, seulement, n'y a-t-il pas d'autres histoires à raconter, d'autres vies à mettre en lumière quand on a l'argent et la notoriété de pouvoir le faire ? C'est ma question. Je vois dans ce genre de film souvent un acte assez narcissique, très auto-centré, un cinéma qui se regarde un peu le nombril. Bon après, ce ne sont pas de mauvais films, je vous conseille quand même davantage L'être aimé, ne serait-ce quand même que pour la performance des acteurs, surtout Javier Bardem. Mais il y a sans doute en salle en ce moment de nombreuses autres histoires à découvrir, peut-être un peu moins hors sol.
Merci beaucoup Jeanne, là je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Diane, je te laisse réagir.
Ouais, je suis assez d'accord sur ce que tu disais. Je trouve que c'est assez bizarre de... Enfin, moi, j'avais vu la bande-annonce du Almodovar. Et je m'étais dit, ouais, pourquoi pas. Et quand j'ai vu qu'il était en salle dans mon cinéma à côté de chez moi, en fait, je me suis dit, ouais, mais je crois que j'ai pas tellement envie d'aller voir un truc où je sais que je vais pas être touchée profondément par ça. Et je trouve que c'est assez intéressant de ce que tu dis de... Ouais, est-ce que j'ai pas un côté un peu cynique à regarder un truc où ouais, je sais que c'est, enfin genre, je sais que je serai pas pote avec la personne et que je vais pas avoir de l'empathie pour lui, quoi. Donc je suis assez d'accord.
Ryan.
Je suis aussi d'accord, risque de vous ennuyer parce que en fait, effectivement, je trouve que le cinéma, la mise en abîme cinéma dans le cinéma, ça fonctionne dans plein de films. Moi, La Nuit Américaine, j'adore. J'ai vu plusieurs fois, mais même si je suis pas dans cet univers-là, je suis pas producteur de ciné, je suis pas acteur. Il y a quelque chose qui nous touche, on est dedans. Et si on se regarde un peu le nombril, pour reprendre ton expression, effectivement, je trouve que c'est assez difficile. Même si, effectivement, on ne va pas au cinéma pour voir nos vies sur grand écran. Mais enfin, effectivement, il faut un peu chercher des nouvelles idées. Il faut un peu. Faut pas tourner en rond, quoi. Donc, effectivement, moi, ce n'est pas des films que j'ai envie de voir. Peut-être le Almodovar, parce que c'est Almodovar pour le coup. Donc je me suis dit que peut-être que j'irai le voir, même si, de ce que j'ai compris, il a un peu plus déçu la critique que ses précédents films. Donc voilà, mais parfois on y va pour le nom.
Mais c'est vrai que tout ce que tu as dit là, Jeanne, ça fait écho à beaucoup de conversations que j'ai eues très récemment, parce qu'on en retrouve ce problème aussi dans certaines productions documentaires. En ce moment, il y a le documentaire 30 de Seb Lafrit qui est sorti, et j'ai vraiment eu cette sensation en fait. Et en plus, il questionne parce qu'il a été diffusé donc à Cannes, donc il y a cette limite entre YouTube, cinéma, enfin bon voilà, ça c'est tout un autre sujet, mais on est vraiment dans ces dynamiques de... Bah, ouin ouin, j'ai 30 ans, c'est pas facile. Mais je vis dans un énorme appart à Paris et je me paye un voyage à Tahiti. Bon, voilà, c'est
très
un peu.
Difficile.
C'est très difficile. C'est très difficile. Donc voilà, c'est vrai qu'on assiste à de plus en plus de productions comme ça, de personnes qui mettent en scène leur propre vie avec des problématiques qui certes existent, mais je sais pas si c'est les plus difficiles à vivre. Donc bon, moi je suis aussi un peu gênée par ce genre de production. Vas-y, Jeanne.
J'en parlais avec des amis au moment où j'écrivais ma chronique et j'ai une amie qui me disait, en fait, ça me fait beaucoup penser à la réflexion autour des influenceurs qui, il y a quelques années, partageaient un peu leur quotidien, les produits qu'ils utilisaient, certes, comme fonds de commerce, mais il y avait un peu un truc de je regarde la vie des autres qui est un peu comme la mienne. Et aujourd'hui, plus ça vient et plus les influenceurs qui sont connus, ils sont tout le temps en vacances, ils habitent à Dubaï ou je ne sais où. Et leur vie, mais comme toi peut-être, mais leur vie est tellement déconnectée de la nôtre qu'ils perdent de l'audience comme ça en disant en fait, je galère, je dois payer mes cours, je sais pas quoi, j'ai pas envie de voir quelqu'un qui est aux Seychelles toutes les 4 matins. Quoi.
Ça, c'est sûr. Christophe, oui. Je te laisse réagir.
Bah, il faut qu'il y en ait un qui défende, donc je vais le faire. Non, mais c'est marrant parce que tout à l'heure, quand on parlait de stand-up, tout le monde avait l'air d'être d'accord pour dire que ce qui était intéressant sur le stand-up, c'est que c'était des gens qui parlaient de leur vie. Et là, quand c'est un cinéaste qui parle de sa vie, ça semble vous poser un problème. Ceci dit, moi, je n'ai vu qu'un des deux films qui est L'être aimé. Je trouve que pour le coup, il renouvelle le genre parce qu'il montre quand même ce que c'est la toxicité d'un homme. Il y a une scène au milieu de ce film qui est juste effroyable. On a enfin, moi, j'ai eu peur en regardant cette scène quand on. Je ne veux pas trop en parler s'il y a des gens qui vont le voir. Mais il est je trouve vraiment qu'il y a un nouveau regard sur ce qu'est le cinéma et qui pose cette question. Est-ce que parce qu'on crée, on a le droit de tout faire ?
Ouais, je suis assez d'accord sur L'être aimé que j'ai, on dirait pas dans ma chronique, mais que j'ai plutôt bien aimé. Je pense que ma réflexion était plus, là je les ai mis en lien parce que ça parlait de cinéaste, mais le Almodovar, je trouve que c'est vraiment, on voit pas de tournage, c'est que la réflexion du cinéaste, ce qui reprend un peu aussi, je sais pas si t'as vu Valeurs sentimentales l'année dernière, ces espèces de comme ça de grands tourments très bourgeois etc.
C'est plus
là-dessus que j'ai adressé ma chronique, mais je suis d'accord que la représentation de cet être comme ça hyper tyrannique au sein du tournage dans L'être aimé, c'est hyper impressionnant. Javier Bardem est incandescent.
Enfin, moi j'ai rien qu'y penser, j'ai des frissons quoi.
Ouais ouais.
Et, peur,
non mais c'est pour ça que je vous conseille quand même de voir ce film.
C'est presque un film d'horreur quoi. Il y a un moment où on se demande en quoi ça va tourner. Ce qui est très bizarre, c'est que je me rappelle pas ce qui se passe après. C'est vraiment la comédie du film.
Spoiler les auditeurs. Non, mais...
Hugo, en quelques mots, une réaction.
Moi, je pense que toute notre discussion là, évoque un ras-le-bol du bourgeois gaze dans le cinéma. Mmh. Bourgeois gaze, c'est un concept développé par Rob Graham qui est passé dans la matinale. Et en gros, ça veut dire que c'est le cinéma, c'est des bourgeois qui parlent à des bourgeois, qui font des films sur des bourgeois pour parler à des bourgeois. Et je pense que vraiment tout ce qu'on nous a dit sur les influenceurs, c'est un ras-le-bol du bourgeois gaze. Et c'est important d'avoir ces réflexions parce que à l'heure où Bolloré dit qu'il veut pas voir ni d'immigrés ni de PD dans ses films, je pense qu'il est important de parler du bourgeois gaze, qu'il est important de dénoncer le bourgeois gaze et important de dénoncer Bolloré. Parce que quand on a parce qu'ils vont nous dire oui mais on a l'histoire de Suleiman, oui mais derrière vous avez pas financé combien d'autres films. François Ozon avait un super film LGBT, je sais plus le synopsis, mais on va pas l'avoir à cause de ça. Je suis désolé, mais abat Bolloré, nationalisons Canal+. Et le bourgeois gaze.
Diane, quelques mots très rapidement.
Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Ryan. Tout à l'heure, tu disais on va pas au cinéma pour voir des histoires qui nous ressemblent. Je suis en mode bah si, en fait. Moi, j'ai très envie d'aller voir des films qui parlent de nos vies, qui parlent de nos ressentis.
On va s'ennuyer. Si on parle d'un film sur ma vie, vous allez vous ennuyer. Hein.
Non, c'est ça, en mode, par exemple, l'histoire de Suleiman que tu viens de citer, bah, ça ne m'est pas arrivé et j'ai vraiment envie de le voir, j'ai vraiment envie de comprendre.
Ouais, mais du coup, je pense que ça va avec une. Enfin, je suis d'accord avec toi et je pense qu'on a besoin, et en accord aussi avec Hugo, on a besoin de voir des films qui parlent de la vraie vie, pas que c'est pas la vraie vie d'être cinéaste, etc., mais de la vraie vie, de ce que c'est, et de je veux bien voir un film sur ce que ça veut dire d'être stand-upper et de se questionner là-dessus, donc ouais, voilà.
Merci beaucoup pour vos réactions. On vient de parler de L'être aimé, de Sorogoyen, ou encore d'autofiction d'Almodovar. Allez les voir au cinéma si vous voulez vous faire votre propre avis, et merci à Jeanne pour cette réflexion très intéressante.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Et c'est la dernière partie de cette émission qui est la dernière de la saison. Et on termine avec Ryan. Pas de pression sur tes épaules, tout va bien. Et tu nous emmènes dans la salle des secrets avec un podcast de France Culture. Je te laisse nous en dire plus.
Eh bien, la salle des archives, c'est le nom de l'émission, c'est à peine une métaphore. Le concept, revenir en plusieurs épisodes sur une histoire au rythme d'archives sonores de l'INA. Original, l'émission l'est assurément, à commencer par le choix des sujets. Hors des sentiers battus, de Marcel Pagnol au To Be Free, des grèves de 1995 aux Halles de Paris, des grands mythes français souvent inexplorés par les émissions d'histoire, c'est le Paris de France Culture qui nous replonge dans ces histoires avec des archives soigneusement choisies. Elle aussi peut voir jamais entendu avant, comme des extraits du Téléphone Sonne, émission interactive culte de France Inter, qui donne, selon le producteur de l'émission, Mathieu Garrigou-Lagrange, l'atmosphère d'une époque. Le même s'est fixé une règle dans Télérama: si un son vous fait sourire, il faut le prendre, même si vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire. Le refus des sentiers battus, encore une fois. À chaque épisode, un invité, expert ou acteur du sujet, met un bon équilibre équilibre entre interview et écoute des archives.
Surtout, l'émission doit sa singularité en grande partie à son producteur.
Oui, celle des archives, c'est aussi une sensibilité et une subjectivité, toutes deux mises au service d'une écriture soignée, littéraire, poétique même. Sur les ondes, Mathieu Garrigou-Lagrange glisse un peu de lui-même, comme dans cette série en deux épisodes consacrée à Diams, diffusée en janvier dernier.
Elle avait vaincu le monstre de la faim, acquis la célébrité, et voilà qu'elle se rendait compte que ce qu'elle cherchait vraiment, c'était l'amour et le sentiment de protection qu'il procure. Or, ce Graal-là continuait de lui échapper. Méfie-toi de ce que tu désires, disait Sainte Thérèse, car tu pourrais bien l'obtenir.
Celle des archives donne une seconde vie inespérée à des sons qui n'avaient connu jusque-là que le flux du direct. L'émission, elle, prend le chemin de l'intemporel, car ne nous y trompons pas, si elle est diffusée chaque dimanche après-midi, elle est construite comme un podcast, plusieurs épisodes rangés dans une série, elle-même dotée d'un titre et d'une illustration et une réalisation sonore léchée qui fait vivre le récit. En clair, c'est fait pour durer. À l'heure où les vidéos de Lina cartonnent sur les réseaux sociaux, où la Gen Z découvre le parler des années 60, l'évolution de nos mentalités, de nos tenues, de nos sociétés, celle des archives gagne à être connue.
Alors c'est quoi tes recommandations ?
J'en ai plusieurs, la série Libé, un roman vrai sur l'histoire du journal Libération, le podcast va au-delà de ce qu'on sait déjà, on connaît les origines maoïstes, post-68art du journal, mais là il raconte Libé comme une saga, avec des rebondissements, la création du journal, sa disparition, sa renaissance après l'élection de Mitterrand. Il va dans les coulisses, évoque la place des femmes, de Sartre, des reportages, des petites annonces, il raconte un journal et surtout une époque. Mathieu Garrigou-Lagrange y raconte même ses débuts dans le journalisme comme stagiaire à la fin des années 90. Autre mention spéciale, la série Mylène Farmer pour de vrai, deux épisodes consacrés à la chanteuse. On y découvre tellement, je l'ai écouté dans le bus, il faisait nuit, j'étais embarqué. Au fond, à chaque épisode, ce qu'on perçoit tout de suite, c'est un gros travail de documentation, comme si le producteur était passionné du sujet dont il parle, à la fois passionné par le rock, par Colette et par le Havre. Pour toquer à la salle des archives, rendez-vous chaque dimanche à 16h sur France Culture et puis surtout, puisque vous êtes jeune et connecté, sur l'application Radio France.
Merci beaucoup Ryan, ça donne envie de plonger dans des histoires qu'on connaît à redécouvrir ou qu'on ne connaît pas et donc à découvrir. Jeanne, je te laisse réagir.
Ce que je voulais dire, c'est que ça permet aussi de faire revivre des moments de radio qui n'existent plus. Je pense à la radio de nuit. J'ai écouté récemment des archives de l'émission Allô Macha qui était diffusée sur France Inter en direct à une heure très très avancée du petit matin. Et c'est fantastique parce que c'est des voix, c'est des façons d'utiliser la radio comme un espace de confidence et vraiment de connexion intime comme ça avec les auditeurs qui n'existent plus vraiment aujourd'hui. Et voilà, je trouve que c'est des beaux moments à écouter.
Hugo,
J'adore Lina. Donc je suis trop content de cette chronique. Je vais grave aller écouter le podcast. Les archives de Lina, j'aime bien me replonger dedans. Il y a vraiment des petites pépites qui sont sur YouTube. Par exemple, de certains artistes que moi j'aime beaucoup, comme Anne Sylvestre, où il y a même des comment ça s'appelle ? Il y a le mec là qui prend un accent bourgeois pour parler du livre de poche. Enfin, il y a vraiment des archives iconiques de Lina. Et je trouve qu'elles font un travail incroyable, même sur les réseaux sociaux, pour rendre ça accessible. Et je suis très content de cette recommandation. Je vais aller l'écouter.
Diane ?
Moi aussi, j'ai trop envie d'aller écouter. Franchement, je suis hyper curieuse, notamment sur le sujet sur Diams, etc. Et puis d'avoir aussi des sujets qui sont hyper larges. Tu disais des To Be Free à mai 68. Et oui, Lina, c'est une énorme banque d'archives qui est assez impressionnante, qui existe encore et qui est encore alimentée.
C'est ça qui est vraiment fort avec le son, c'est le côté intemporel. Parce qu'en fait, un son nous fait tout de suite voyager, qu'il ait été enregistré il y a 50 ans ou qu'il soit enregistré dans 50 ans, ça sera le même grain de voix et donc du coup le même impact émotionnel. Et je trouve que c'est encore plus fort pour apprendre sur certaines vies, certaines expériences, certains moments. Donc c'est vraiment bien. Christophe ?
Alors moi j'adore cette émission, j'adore ta chronique parce qu'elle lui rend une justice. Ça m'a donné envie d'en réécouter certains. J'avais oublié celui sur Colette qui est génial. Il y en a un qui est génial sur Triste Tropique, un livre que j'ai jamais lu mais que j'ai eu envie de lire après l'avoir écouté. Moi ce que j'adore chez Mathieu Garrigou-Lagrange, et que tu rends très bien, c'est que quand il parle de culture populaire ou de culture pop, il a jamais... Enfin, je sais pas comment dire, il y a des gens qui en parlent, mais avec un petit côté quand même, quand ils sont dans bon, on parle de ça, mais bon, il y a des choses plus sérieuses. Lui, il le prend vraiment au sérieux et il le transmet avec un vrai respect pour les gens dont il parle. et vraiment sans jamais, on sent pas une pointe de mépris chez lui. Alors je le connais pas personnellement, mais je trouve que c'est génial dans son travail. Là, et bon, et sinon il y a de la série sur Libé qui est géniale aussi, vraiment tout le monde devrait écouter si on aime le journalisme. C'est passionnant. C'est une super émission, vraiment.
Un sujet qui t'a marqué, Ryan ?
Qui m'a marqué, franchement, je n'ai jamais écouté un truc pareil. En fait, je trouve que c'est une émission assez singulière. Et je voulais dire qu'ils travaillent vraiment avec Lina. Lina leur envoie des archives, et ils écoutent, ils choisissent les sons. Il y a un vrai travail de choix et de documentation. Donc, c'est vraiment aussi un super travail de Lina qu'il faut aussi souligner.
Super, et ben merci beaucoup Ryan pour cette recommandation. On vient de faire ce focus sur l'émission de radio / podcast qui s'appelle La Salle des Archives, qui est produite par France Culture. C'est dans l'art, c'est déjà fini pour ce soir et c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à toutes et à tous pour vos recommandations et toutes ces choses que je vais courir à aller découvrir juste après avoir passé le pas de la porte de la radio. Merci beaucoup Ryan, Christophe, Hugo, Jeanne et Diane pour vos chroniques et vos réactions.
Merci Léa.
Merci Léa. Merci à Eléa à la technique. Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, retrouvez-nous sur le site internet radiocampusparis.org pour nous réécouter ou sur Instagram. C'est dans l'art RCP tout attaché. En attendant, moi, je vous souhaite un très bel été qui, j'espère, sera rempli d'art et de découvertes. À bientôt.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.